France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les Misérables.
Les correcteurs d'imprimerie pleuraient en lisant les épreuves. Des ouvriers dans les ateliers se cotisaient pour pouvoir acheter le livre et tiraient au sort celui qui, quand tous les compagnons l'auraient lu, en deviendrait le possesseur. Le magasin de l'imprimerie était envahi dès 6 heures du matin par des commis et des trotteurs de librairie venus chercher leurs exemplaires. On s'est arraché le livre. Et à l'ouverture des portes, les sergents de ville ont dû maintenir l'ordre.
Il y a 150 ans, la publication des Misérables, échelonnée sur des mois, orchestrée dans plusieurs pays, provoquait un engouement inouï. On pourrait comparer avec le lancement de Harry Potter, sauf qu'alors tout se passait en français et que l'intention était sociale et politique autant que commerciale. L'impressionnante campagne de lancement se termina par un banquet à Bruxelles. Les vieux amis parisiens de Hugo, qui ne l'avaient pas revu depuis son départ en exil et l'avaient connu en notable superbe, le retrouvèrent en prophète barbu. À dire vrai, peu parmi les plus anciens avaient fait le déplacement. Autant le public était transporté, autant la critique était réservée. Cette montagne, mieux, ce massif qui fuit aussitôt de l'ombre aux écrivains concurrents au souffle plus court, il faut pour le parcourir un guide, pour explorer cet immense océan de misère enveloppé dans l'inexorable guerre sociale. Il faut un pilote, alors ce sera aujourd'hui Jean-Marc Vaz, bonjour.
Bonjour.
Jean-Marc Vaz qui poursuit sa gigantesque biographie de Hugo chez Fayard et qui anime un numéro hors série que Le Monde consacre à Hugo à l'occasion de cet anniversaire. Autant où les enfants lisent aujourd'hui Harry Potter, vous c'était la légende des siècles que vous aviez dans vos bagages.
Oui, absolument. J'ai commencé en lisant la légende des siècles.
Il faudrait dire double anniversaire. À Besançon, vieille ville espagnole, où je fus jeté comme la graine au gré de l'air qui vole, on célèbre le 210e anniversaire de la naissance, très précisément en février.
C'est le 26 février que Victor Hugo est né, à 22h30, comme tout le monde le sait.
Et c'est à 18h, le vendredi 17 février, que vous faites un débat en parallèle avec cette publication du hors-série Le Monde, en compagnie de Martin Hirsch, qui avant de devenir président d'Emmaüs et commissaire aux solidarités actives, a lu, très jeune, à l'âge où on lit aujourd'hui Harry Potter. Et qu'est-ce qu'il a fait des Misérables quand il avait 11 ans?
Oui, il écrit un beau texte dans ce hors-série sur son rapport aux Misérables. Il adore Victor Hugo et il explique comment, en découvrant Les Misérables, il était presque jaloux de ne pas être le seul à connaître ce livre, ce qui est assez fascinant. Et du coup, pour se le réapproprier, il en a écrit un pastiche.
Ah, la rédaction du vrai livre, qui ne s'appelle pas encore Les Misérables, elle a commencé pour Victor Hugo à Paris, dans les années qui ont précédé la révolution de 1848.
Oui, il a commencé très exactement à écrire les Misérables au moment où il est déjà, sa grande carrière des honneurs est derrière lui. Il est déjà académicien, il est déjà pair de France même. Donc on est en 45 et il commence à ce moment-là à écrire ce roman qui n'a pas encore de titre bien fixé.
Père adultère néanmoins.
Père adultère, oui. Il a eu, bon, père d'abord, père...
Père hier, hein,
oui,
sûr,
mais père aussi, P-E-R-E, père tragiquement frappé par la mort de sa fille d'abord en 43. Ensuite, c'est plus anecdotique, mais enfin frappé par un flagrant délit d'adultère en 45.
Alors c'est pour ça qu'il se replie chez lui pour écrire.
Et il s'enferme chez lui pour écrire. C'est Sainte-Beuve qui dit ça, ce qui n'est pas très bienveillant, évidemment, de mettre l'origine des Misérables sur le compte d'un adultère. C'est quand même un peu limite. Mais enfin, il y a de ça aussi, évidemment, parce que Sainte-Beuve était assez clairvoyant malgré tout.
Quand en 48, il interrompt la rédaction parce que le requiert d'autres urgences, les trois quarts du sujet ont été traités.
Oui, c'est assez incroyable parce que le roman est énorme, il a duré très longtemps, la rédaction a duré très longtemps, mais quand il écrit, Hugo, il écrit très, très rapidement. C'est assez fascinant, on peut le voir sur les manuscrits, puisque souvent il met les indications. Donc on peut suivre quasiment jour par jour la rédaction du roman. Et effectivement, en 48, quand il s'interrompt, quand il arrête ce roman qu'il a commencé en 45 et qui s'appelle cette fois déjà « Les Misères », il y a déjà un titre fixé, eh bien, à peu près les trois quarts de l'intrigue, en tous les cas, telle qu'on la connaît aujourd'hui, sont couverts.
Et la moitié de la surface écrite. Et puis, le livre va connaître un recommencement en 1859, ou plutôt en 1860, en exil.
Fidèle à l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de ma conscience, je partagerai jusqu'au bout l'exil de la liberté. Quand la liberté rentrera, je rentrerai.
Sur le roc de Guernesey, commence maintenant un exil volontaire. Juliette Drouet est toujours à ses côtés dans ses combats contre toutes les souffrances humaines. C'est avec elle que Victor Hugo, accompagné de son fils Charles, voyage à nouveau.
Les Misérables est écrit pour tous les peuples. Je ne sais s'il sera lu par tous, mais je l'ai écrit pour tous. Partout où l'homme ignore et désespère, partout où la femme se vend pour du pain, partout où l'enfant souffre faute d'un livre qu'il enseigne, Les Misérables dit « Ouvrez-moi, je viens pour vous ».
France Inter 2001 avec Denis Lavant comme interprète de Victor Hugo. C'est un homme différent de l'académicien, pair de France, officier de la Légion d'honneur, qui reprend l'exercice.
Certes, il n'a plus rien à voir. Le contraste est fascinant. On peut dire que c'est une antithèse hugolienne, ce qui serait facile, mais c'est tout de même réel. C'est-à-dire qu'il était quasiment tout. Il avait tous les honneurs avant l'exil. Du jour au lendemain, à partir du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, il perd tout. Et c'est un homme évidemment extrêmement différent qui reprend le manuscrit. On le voit à beaucoup de signes dans le hors-série. On a publié la page, précisément la page du roman, du manuscrit, la page du manuscrit où Hugo s'est interrompu et a repris. Et Hugo lui-même, l'écriture est très différente. C'est fascinant. Même l'écriture a changé. Et il a noté lui-même, ici, le père de France s'est arrêté et le proscrit a continué.
« Ouvrez-moi, dit-il au moment de la publication en 62, les Misérables sont faits pour vous ou... ?» Regardez-moi, parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations cinématographiques. On a choisi, à tort ou à raison, celle de Le Chanois, où Jean Gabin interprète Jean Valjean, le forçat libéré.
Oui, c'est une bonne version. Il y en a eu d'autres, mais c'est
Parce que Jacques Sigal, notre réalisateur, dit que Gabin est peut-être trop Gabin, mais il n'a pas lu l'intervention mémorable de Philippe Poutou, le candidat du NPA aux élections présidentielles, dans votre hors-série.
Oui, absolument, qui raconte à quel point cette projection du film l'a marqué. Et d'ailleurs, il le dit honnêtement, mais beaucoup de gens pourraient en dire autant, la connaissance qu'il a des Misérables vient moins du livre que du film.
Alors Baudelaire, au moment de la publication, disait, on va commencer par présenter quelques personnages, que ces personnages étaient des figures idéales qui représentaient une généralité. C'est un peu vrai. Par exemple, l'évêque de Digne, il figure le bon prêtre d'une église idéale. On se souvient que Jean Valjean, le forçat enfin libre, toque à sa porte. Il trouve chez l'ecclésiastique et sa gouvernante le gîte et le couvert. Il s'en va en emportant, c'est sans doute par habitude, les couverts.
Allez, avance-toi. Regardez ce que cet homme avait dans son sac. Nous l'avons interpellé pour vérifier son passeport et pour le fouiller. Voilà ce qu'il avait. Et comme vous savez qu'hier, vous l'aviez reçu à dîner, ma foi, nous l'avons arrêté.
Pourquoi n'avez-vous pas dit à ces messieurs que je vous les avais donnés? Vous avez même oublié vos chandeliers. Je vous les avais donnés avec les couverts. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés?
Vous les lui aviez donnés?
Mais bien sûr.
Alors, comme ça, nous pouvons le laisser aller?
Oui, et rendez-lui son bien.
Merci.
Jean Valjean, mon frère, je ne crois pas au pouvoir de l'argent. Mais celui-ci peut vous aider à devenir un autre homme. Vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète.
Fernand Ledoux, dans le rôle de l'évêque de Digne, qui conclut avec Valjean un pacte faustien, mais un pacte faustien pour le bien.
Oui. Quand Baudelaire dit ça sur les personnages, c'est pas forcément un compliment. Je préfère Baudelaire critique de la poésie de Victor Hugo, qui a dit des choses magnifiques et remarquables, que Baudelaire critique du roman, du romancier Hugo. En tous les cas, ce qu'il dit là, il reprend ce que Goethe avait dit contre Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire que Hugo ferait des types et pas des personnages vivants, ce qui évidemment ne résiste pas à la lecture.
Mais attendez, c'est un type, l'évêque de Digne. Il n'y a pas beaucoup d'évêques comme ça
C'est un prêtre isolé d'une église idéalisée.
Oui, c'est un de ce côté-là, vous avez raison. C'est un personnage d'ailleurs qui a beaucoup surpris, parce que donc c'est la figure qui est sur le seuil du roman et du premier tome, alors que Hugo d'abord n'avait pas pensé commencer comme ça. Mais dans tous les cas, il commence par la figure de l'évêque, la figure d'un évêque idéal à qui Hugo donne beaucoup de traits propres à lui-même. Donc c'est une projection autobiographique en homme d'église idéal, et donc c'est une sévère critique de l'église telle qu'elle était à l'époque, puisque cet évêque incarne parfaitement les valeurs de l'évangile, contrairement aux autres évêques, évidemment.
Alors, puisque vous n'aimez pas mes citations de Charles Baudelaire, je vais me retourner vers Louis Chevalier, le grand historien, classe dangereuse et classe laborieuse, qui dit « Les personnages de Victor Hugo dans Les Misérables sont des personnages globaux qui sont nés d'un réalisme d'érudition, de l'observation, de la lecture, mais d'un réalisme souvent involontaire aussi, parce que la description, elle était subie par Victor Hugo. Les pauvres sont des gens qui sont enveloppés par la nuée sociale, poussés à la misère par la force des circonstances.
Oui, j'aime beaucoup Baudelaire aussi. Mais bon, pour en venir à Louis Chevalier, oui, c'est sûr, mais il y a aussi autre chose. Hein, il faut pas croire que Hugo a fait des abstractions. Ça résulte pour beaucoup de tous ces personnages, résulte pour beaucoup de l'observation, et d'abord de l'observation de son propre cas, de lui-même, pour tous les personnages. J'ai dit pour l'évêque, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres.
Mais pour Fantine, la grisette déchue. Il y a ou la fatalité du travail, mais ça ne permet pas l'épargne, ou il y a la fatalité de la prostitution. Et il dit, Victor Hugo, il lui arrive tout ce qui doit lui arriver.
Oui, ça, je suis d'accord. La citation de Louis Chevalier s'applique très bien à Fantine. Ça, c'est tout à fait.
Alors, la voici, notre Fantine réduite à confier sa fille Cosette aux horribles Thénardier à Montfermeil.
Oh, vous avez là deux belles petites filles, madame.
La vôtre est bien mignonne aussi. Regardez-les, on dirait trois sœurs.
Oh, madame, c'est le bon Dieu qui m'a fait passer par chez vous. On voit bien que vous êtes une gentille maman. Dites, vous ne voudriez pas me garder la mienne?
Vous la gardez?
Oui, son père est mort. Je n'ai plus de travail à Paris, je rentre au pays, mais avec un enfant, c'est pas facile de se placer. Quand j'aurai gagné un petit peu d'argent, je reviendrai la chercher. Je pourrais vous donner 6 francs par mois.
Ma foi, si ça peut vous rendre service, entre femmes, il faut s'aider. Mais il faut d'abord que j'en parle à mon mari. Elle dit qu'elle donnerait 6 francs par mois.
Oui, pas assez. 7 et 6 mois payés d'avance.
Thénardier, c'est le début de la petite bourgeoisie.
Thénardier, c'est un personnage extrêmement compliqué, extrêmement intéressant, beaucoup plus que la caricature qu'on peut en faire quelquefois dans les versions adaptées. C'est un personnage extrêmement intéressant qui est tout à fait, qui a des notions d'économie, de politique, qui dit des choses. Alors évidemment, c'est un personnage très noir et Hugo là, ne le cache pas. Hein. C'est pas du tout. Il n'y a pas chez Hugo un rachat des Thénardier. Hein. C'est vraiment, il le dit bien. Ce sont des personnages vraiment qui incarnent le mal, mais en même temps, ils sont plein d'intérêts. Voilà l'exemple même de personnages qui sont pas du tout monolithiques, malgré tout.
Qui peuvent s'individualiser dans cette immense classe indigente qui commence avec eux et qui va se prolonger de misère en misère jusqu'au bas-fond.
Oui, mais dans le roman, ils ont des enfants, les Thénardier, et les enfants des Thénardier sont des personnages extrêmement positifs, que ce soit Gavroche, Éponine aussi d'ailleurs, c'est tout de même intéressant aussi.
Alors Gavroche, il est au bout de la chaîne, c'est un maillon, c'est une suite de maillons, les Misérables, tout est lié. Alors Gavroche, son destin n'est pas écrit d'avance?
Tiens, Gavroche, porte ça, tu diras que tes sœurs sont malades.
Non.
Comment? C'est comme ça que tu parles à ton père, toi?
J'ai dit non. J'ai ma claque de mendigoder partout. Si tu voulais, tu pourrais travailler.
Mais je suis un homme qui ne fait pas n'importe quoi. Je suis un ancien militaire, moi.
Eh ben, salut, militaire.
Quoi? Fous le camp ou je t'assomme?
Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi?
Ah, la vieille, toujours aussi laide?
Qu'est-ce que tu veux? Si c'est pour cette engeance de Thénardier que tu viens, tu peux déguerpir.
Dis la vieille, on pourrait peut-être s'arranger tous les deux. Si on se met en ménage.
T'es malheureux. Fais attention à ce que tu dis si tu veux pas que je te flanque mon pied quelque part.
Si.
C'est une honte de voir ça. Graine de potence. Tu finiras au bout d'une corde.
Guillotiné, on voit mieux le sang.
Comment t'appelles-tu, mon garçon?
Gavroche, pour vous servir. Et vous?
Où habites-tu?
Ça vous regarde?
Comme tout ce qui regarde la police. Je t'avertis, tu pourrais te retrouver à l'abri un de ces jours. Tu ne sais pas qu'il existe des prisons pour enfants?
Si, je le sais. Mais c'est peut-être moi qui vous y enverrai un jour. Je suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... Je ne suis pas de terre. C'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau.
Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau.
Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
150e anniversaire de la publication des Misérables avec Jean-Marc Ovas, le biographe de Victor Hugo. Deux volumes déjà parus chez Fayard et un animateur du hors-série du Monde consacré au grand écrivain. C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau dans le lexique du hors-série Le Monde. Vous dites que c'est pas du Hugo ?
Oui, tout le monde croit que c'est une chanson écrite par Hugo, mais pas du tout. C'est une chanson, mais Hugo le dit lui-même dans le roman, parce que c'est une chanson qu'il a ramassée dans la rue. C'était une chanson qui courait dans les... C'était un signe de ralliement des libéraux dans les années, entre 17 et entre 1817 et 1830. Et c'était un refrain qu'on a attribué à deux chansonniers, mais qui appartient d'abord à un chansonnier suisse, et que Béranger a repris, et qui ensuite, Hugo a réutilisé le refrain. Après, il a fait les couplets, mais enfin, le refrain, c'est pas du Victor Hugo.
La gloire de Béranger a éclipsé le suisse, et celle de Hugo, la gloire...
Oui, c'est fascinant comme
Béranger. On s'est permis quelques greffes. Hein.
Oui,
c'est la comédie musicale de Schoenberg. Oui. Je crois que c'est le 25e anniversaire que d'anniversaire de la version anglaise, là, cette année. Et puis, Javert, qui promet la prison pour enfants. À Gavroche, c'est Michel Bouquet, c'est plus la version Le Chanois, c'est la version Ossène. Alors Javert, peu à peu, quand on avance dans la lecture, tome après tome, l'interprétation devient de plus en plus politique. Javert, c'est l'incarnation de l'honnête homme et du début de bourgeois qui, lui, commet, au fond, des crimes qui sont légaux. Les pauvres commettent des crimes involontaires, les bourgeois des crimes volontaires.
Ce qui est intéressant sur Javert et qu'on sait peu, puisque dans les adaptations, c'est toujours un des personnages principaux, et surtout dans les adaptations anglo-saxonnes, on peut comprendre pourquoi, peut-être. En tout cas, c'est toujours Javert qui a quasiment le premier rôle. Or, quand on regarde, Guy Rosa a étudié et publié sur le site du groupe Hugo, accessible en ligne, la première version des Misérables, on se rend compte que dans la première version, donc Les Misères, la version d'avant l'exil, Javert avait un petit rôle au début. Il est devenu un personnage important et qui devient vraiment magnifique avec ce fameux livre Javert déraillé au moment du suicide de Javert. Mais voilà, c'est un personnage qui est monté en puissance dans le roman lui-même et ensuite dans les adaptations encore plus, puisqu'il a un rôle vraiment beaucoup plus important parfois que dans le roman lui-même.
Et c'est pour ça que quand Bob Dylan vient à Paris, il rencontre Hugo.
Vous avez bien lu. Il veut aller voir l'endroit où Javert se suicide. C'est d'ailleurs un bel endroit à côté de l'hôtel de ville.
Ah, l'endroit, on peut le localiser.
Absolument, c'est très bien décrit dans le roman.
C'est pas le cas de toutes les barricades de juin 1832 que nous allons maintenant explorer. À mesure que les tomes avancent, ils sont de plus en plus politiques. Vous êtes d'accord avec cette affirmation?
Et c'était d'ailleurs une raison pour la publication, pour éviter la censure. Hein. Les premiers tomes, le premier tome avec l'évêque, etc., c'est pas trop politisé. Et ce qui devient extrêmement politisé, c'est les barricades de 32, donc à la fin, les quatre derniers tomes. Et donc Hugo pensait qu'en publiant en série, le gouvernement ayant accepté, puisqu'il paraît en France aussi, le gouvernement ayant accepté les premiers tomes, ils n'allaient pas oser censurer les derniers.
Le gouvernement du Second Empire au moment de la publication. Oui. Maintenant, revenons au gouvernement de la monarchie de Juillet. À ses débuts, nous sommes 2 ans après la révolution de février. Les tensions sont fortes à Paris. Tous les opposants sont prêts à un soulèvement. Le bar au bas de la rue Soufflot, qui fait le coin avec le boulevard Saint-Michel,
C'est l'endroit
le
Quick
ou le McDonald's, c'est...
Hélas,
c'est...
Enfin, hélas que ce soit devenu un McDonald's, mais enfin, c'était l'endroit du... C'est à peu près l'endroit du Café Muse. Hein.
Oui. Et voici que le général Lamarck, qui est un député libéral, un ancien officier de Napoléon, un héros pour les opposants, meurt. Mais si les opposants se préparent, c'est aussi le cas des policiers à la préfecture.
Vous savez que le général Lamarck est au plus mal. S'il meurt, les républicains vont bouger, les bonapartistes aussi. Toute la racaille va en profiter pour essayer de piller et d'assassiner.
Eh oui, monsieur le préfet, partout où il y a du plomb dans Paris, sur les toitures, les monuments, les gouttières, partout on l'arrache. Et pourquoi? Pour en faire des balles.
Il faut me surveiller tout ça, être à même d'intervenir au moment voulu.
La mort du général Lamarck, tous les détails. La mort du général Lamarck, tous les détails.
Demandez le constitutionnel, la mort du général Lamarck, le constitutionnel.
Les dernières paroles du grand soldat.
Le constitutionnel, la mort du général Lamarck.
De Paris, l'homme martyr de la liberté, Lamarck ou les morts des barricades qu'on porte en terre. Dites-moi, on peut s'attarder un peu sur la mise en scène, l'extraordinaire transposition de la réalité de 1832 par Victor Hugo, qui était témoin à l'époque. On se demande d'ailleurs ce qu'il a fait en juin 1932.
Oui, c'est on pense là aussi, c'est quand on n'a pas Les Misérables en tête, on pense jamais que ça se passe en 32. 32, c'est pas une date qui est restée dans la, qui est pas restée en tête. On pense à 30, on pense à 48, mais on pense rarement, on oublie 32. Et effectivement, Hugo était alors un promeneur, il regardait, voilà, mais il n'y a pas de, il n'est pas du tout acteur.
Ni d'un côté ni de l'autre.
Non, pas du tout à ce moment-là.
En revanche, après, il s'est passé 48.
Voilà.
C'est l'éclatement et l'échec du modèle insurrectionnel 48,
et surtout,
notamment en juin 48.
Bien sûr, et c'est un drame profond, et c'est le pivot de la vie politique de Victor Hugo au juin 48, puisqu'il vient d'être élu, il est élu au début du mois de juin représentant du peuple. Et comme il vient d'être élu et qu'on le connaît, on voit qu'il sait très bien, on l'envoie, il fait partie des barricades, des représentants envoyés sur les barricades pour parlementer et pour s'interposer entre la troupe et les insurgés. Voilà, et donc là, ils sont 70 députés à devoir accomplir cette mission. Hugo l'accomplit avec beaucoup de courage. Il remplit son rôle. Il y a eu des morts qui se sont interposés comme ça. Bon, c'était quand même quelque chose de très douloureux, mais il n'empêche qu'il incarnait la légitimité, il incarnait l'élection, il incarnait le pouvoir.
Donc, il dit des barricades de 32 qui sont en transposition de celles de 48, qu'il ne s'agit pas d'une émeute, parce que l'émeute, c'est quand il n'y a pas de légitimité ni d'horizon politique, mais d'une insurrection derrière laquelle il y a peut-être la main de Dieu, enfin qui a sa légitimité.
Bien sûr, parce que son argument en 48, c'est que le suffrage universel doit suffire pour faire passer les idées. Donc on peut se rebeller, se révolter quand on n'a pas le suffrage universel, mais quand on l'a, il faut voter. Voilà. Donc en 32, effectivement, la légitimité est tout à fait peut-être et sans doute du côté de la rue.
Alors là, je vous fais parler en historien. Maintenant, j'aimerais que vous nous parliez de la grande transposition des événements de 32 en fiction, en spécialiste de la littérature. Comment le point de vue panoramique de Victor Hugo s'organise-t-il?
Voilà,
et
vaste,
l'écriture?
Vaste question. Ce qui est certain, c'est que l'expérience qu'il a eue des barricades a été primordiale pour le récit qu'il en fait. Ça, c'est évident. Il n'aurait pas écrit, ou tout au moins certainement très différemment, ce récit avant 48. Donc c'est vraiment il y a deux choses, il y a à la fois l'expérience des barricades de 48 et l'expérience aussi du coup d'État de 51.
Mais ça, vous parlez toujours en historien. Oui. Alors, en spécialiste de la littérature, il y a comme un roulement de tonnerre et puis il y a une foule d'éclairs. Tout est fragmenté en même temps que panoramique.
Oui, mais ça, c'est la façon... C'est lié aussi à son écriture de lui-même, de son écriture de l'histoire, que l'on voit dans ce qui est publié sous le titre de Choses vues, hein, de tous ces événements politiques qu'il a suivis. C'est ça, la fragmentation plus le point de vue surplombant.
Alors, le point de vue de Dieu ou le point de vue de l'oiseau. Mais maintenant, je vous propose qu'on finisse en voyant ce qui se passe en dessous, dans le réseau veineux qui permet à la ville d'être irriguée, et à Jean Valjean, à l'issue de l'insurrection, de s'échapper comme happé par une bouche d'ombre, happé par les égouts.
Au milieu même de la ville, Jean Valjean était sorti de la ville. Il avait passé du plein jour à l'obscurité, du fracas au silence, du tonnerre des explosions à la stagnation de la tombe. Ce labyrinthe avait un fil, sa pente. Suivre la pente, c'était aller à la rivière, au salut.
Les profondeurs, les tombes, les égouts, votre maître Jacques Sébachère, dont vous avez repris le projet de biographie, oui, de Victor Hugo chez Fayard, parle de calcul des profondeurs chez Hugo.
Oui, qui s'applique à beaucoup de choses, mais effectivement, on est en plein dans la métaphore. Les bas-fonds dans Les Misérables, c'est à la fois les bas-fonds de la société qui sont expliqués et sondés, et en même temps, le bas-fond réel ce bas-fond réel qui est les égouts. Voilà, donc là, on a les deux vues en perspective.
Et puis, il y a les tombes. Sur la tombe du Père Lachaise, une tombe, lisse et simple, il dort, quoique le sort fût pour lui bien étrange, il vivait, il mourut. Quand il n'eut plus son ange, la chose simplement d'elle-même arriva, comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va. Et ce sont les tout derniers moments des Misérables. La phrase est déjà effacée parce qu'elle a été écrite seulement au crayon, au moment même où elle est publiée.
Exactement, c'est une tombe où l'écriture s'efface, un procédé que Hugo a utilisé plusieurs fois dans son œuvre et qui incite évidemment à la fin du livre, puisque tout s'efface, à recommencer au début. Mais comme le livre est très long, il mérite une nouvelle lecture dès qu'on l'a terminé.
Ah oui, donc on ne peut pas dire qu'une énorme masse s'absorbe en quatre vers.
Disons qu'elle incite à tout s'efface, mais en incitant à le reprendre.
Alors, le troisième tome de votre biographie n'est pas encore paru. C'est peut-être pour 2015, anniversaire de Waterloo, anniversaire à Besançon, 210e de la naissance de Victor Hugo. Vous participez vendredi 17 à 18h à un débat avec Martin Hirsch. Vous lui citerez les inscriptions qui sont sur la façade du Monde.
Ah ben certainement.
Banquet des Misérables, Victor Hugo dit...
Gloire, à la gloire du journalisme.
Et qui disent
Par exemple, le rayon de la presse et le diamètre de la civilisation.
C'est gravé, boulevard Blanqui, pourvu que les nouveaux propriétaires du Monde ne veuillent pas faire déménager le journal. En attendant, vous pouvez trouver en kiosque le Monde hors série que vous animez, Jean-Marc Ovas.
Merci.
Merci à vous et à l'équipe de la Marche de l'Histoire, Jacques Sigal, Frédéric Martin, Franck Olivard, Camille Poux, Jalaguier, épaulé aujourd'hui par Sandrine Laurent et Philippe Duclos à la technique. Tout à l'heure, il sera question des pandas chez Mathieu Vidard et demain, nous parlerons de la médecine française et des médecins juifs dans les années 1930-1945.